Comme Simone l'a rappelé, nous sommes effectivement dans une série de prédications sur la lettre que Pierre a écrite dans les années 60 du premier siècle aux chrétiens qui sont en Asie mineure. Dans toutes les séries, il y a un rappel des épisodes précédents. Et donc le premier épisode, c'était les versets 1 et 2 avec les salutations, qui sont des salutations normales. En début de chaque lettre, on écrit des salutations, « Je vous salue », etc. Mais là, il y a un petit mot étrange, ou trois mots étranges, des personnes qui vivent en hôtes de passage, dispersées dans les provinces du pont, etc. « Bonjour ». Des hôtes de passage, des résidents temporaires, des gens qui sont étrangers dans leur propre pays parce qu'ils sont chrétiens, en fait, et qui sont dans un monde dispersé, donc, enfin, pas le monde qui est dispersé, eux, ils sont dispersés dans ce monde, un monde, l'Empire romain, qui met la pression sur eux, et qui sont des résidents temporaires dans un pays qui n'est pas vraiment leur et qui sont en attente d'une cité, une cité dans les cieux, une cité qui vient d'en haut, des binationaux, en quelque sorte. Et on a peu parlé d'un autre mot, mais qui se trouve aussi dans la salutation, et qui est ce « salut ceux que Dieu a choisis », littéralement les élus, qui sont donc des résidents temporaires, mais qui ont quand même été élus, choisis de longue date par Dieu qui les connaît parfaitement. Et par ces mots, Pierre commence en fait ce qui fait l'objectif de sa lettre, à savoir l'encouragement de ces résidents temporaires, de ces étrangers dans leur propre pays, sous pression, dispersés dans l'Empire romain. Et puis dans le deuxième épisode, donc premier épisode qui est suivi par un autre, d'une salve d'encouragement, parce qu'ils ont besoin d'encouragement, ces chrétiens dispersés et sous pression. Et il leur dit, vous avez été élus, ça on en a déjà parlé, mais vous avez été aussi régénérés, une nouvelle naissance. Dans son grand amour, il nous a fait naître une vie nouvelle, une nouvelle naissance, régénérée littéralement, et régénérée pourquoi ? Pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire ni perdre sa beauté, qui vous est préparé, réservé même dans les cieux, et pour lequel vous êtes gardé. Et Pierre veut continuer à les encourager, puisqu'il s'agit d'une lettre d'encouragement, et dans les verset, ah non, j'ai oublié, et il va parler aussi des épreuves. Il continue sa salve d'encouragement en parlant des épreuves, parce qu'ils en vivent des épreuves, et Pierre peut leur parler de ces épreuves en les encourageant à les considérer comme d'abord étant temporaires, ensuite être utiles à leur foi. Ça, c'est ce dont on a parlé dimanche dernier. Et puis, Pierre veut continuer dans cet encouragement. Et dans les versets que nous avons lus tout à l'heure, il va encourager ses résidents temporaires sous la pression de l'Empire, à qui il arrive bien des épreuves. Il va les encourager en quelque sorte à devenir meilleurs. Et il est question, vous l'avez entendu, d'obéissance, de changement de comportement et même, excusez du peu, de sainteté. Et il ne va pas juste être question de sainteté, il y a là un véritable appel à la sainteté. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement, carrément. C'est le titre de la prédication, un appel à la sainteté, carrément. Carrément un appel à la sainteté. Et c'est un peu une surprise que cet appel. On aurait pu s'attendre à ce que Pierre soit un peu plus cool avec des gens qui sont déjà sous pression, dispersés, à travers cet empire romain qui est un système totalitaire quand même. Mais Pierre, inspiré par l'Esprit, met dans ses encouragements cet encouragement à la sainteté. Alors il ne s'agit pas d'un état spirituel supérieur, ni la sainteté avec cette petite auréole là qui au-dessus du smiley avec les ailes d'un ange et les mains en prière. Il ne s'agit pas non plus de jouer au saint comme Simon Templar, dit le saint. Ça n'a rien à voir. Il s'agit ici, et le verset 15, il s'agit de la sainteté dans son comportement. Pas un état de sainteté, mais un comportement qui serait saint. On est là dans le concret de la vie quotidienne. Et à côté des autres encouragements, cet appel à la sainteté comportementale pourrait paraître un peu rude, comme ou décalée, ou en tout cas pas très à la mode de chez nous. Mais quand on reprend aussi chaque encouragement du début du chapitre, premier chapitre de Pierre, on s'aperçoit qu'ils nous mettent quand même sur la piste d'une route. Une route où il y aurait peut-être des changements à opérer. On a parlé de l'élection élue. Je vous salue, vous, les élus qui sont dans la province du Pont, etc. Eh bien, cette élection est non seulement une sécurité et une protection pour ceux qui sont considérés comme élus, mais c'est aussi une responsabilité. On le sait avec nos élus politiques. Être choisi, ça implique quelque chose. On vit différemment quand on sait qu'on a été choisi depuis la fondation du monde. A fortiori, depuis la fondation du monde. L'espérance vivante dont il était question, elle est vivante dans le sens où elle donne la vie, mais elle est vivante dans le sens où elle change la vie. Où la vie va être changée. L'espérance qui est déjà présente, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme le bout de la corde, est présente déjà dans nos mains, alors que l'autre bout est en haut, là, on grimpe vers la cité céleste. Mais on a déjà cette espérance. Eh bien, cette espérance qu'on a déjà dans le présent, elle transforme ce présent, ou elle nous appelle à transformer ce présent. Et puis cet héritage incorruptible qui nous est réservé dans les cieux et pour lequel nous sommes gardés, doit d'une manière ou d'une autre être fructifié ici et maintenant. Après tout, la vie n'est pas une salle d'attente du royaume, mais une sorte de préparation au royaume, une sorte de laboratoire de la cité céleste. Oui, indubitablement, cet appel à la sainteté fait partie des encouragements que Pierre adresse à ses chrétiens du 1er siècle. Ce n'est pas un poids supplémentaire qu'ils cherchent à mettre sur leurs épaules déjà fragilisées ou fatiguées à cause de toutes ces épreuves. Imaginons quelqu'un qui a un grave accident à la jambe et qui souffre de multiples fractures. Il est opéré, on a pu sauver sa jambe, il passe en rééducation, entre les mains du kinésithérapeute, quel beau métier. Et après quelques mois, il remarche, il s'améliore dans sa marche, il boite encore un peu. Le kiné le regarde et il ne va pas lui dire « Là, tu boites encore un peu, mais c'est bon, on va arrêter là. C'est bon comme ça. » Non, il va lui dire, le kiné, si c'est un bon kiné, comme Irène, et pas là, Irène, ou d'autres, ou comme Pauline, que l'on connaît un peu ici, il ne va pas lui dire « Ben, on va arrêter là, c'est bon comme ça. » Il va lui dire « Non, tu as déjà fait des progrès. » C'est bien, mais on va encore travailler pour que ce soit encore mieux, pour que ta marche soit meilleure, quasi parfaite. Je dis quasi parce qu'une marche n'est jamais parfaite. Parce que, je me souviens dans mes études de kiné, on sait très bien que personne n'a le dos tout à fait droit. Tout le monde a une légère scoliose, ou syphose, ou lordose. Ouais, j'ai quand même quelques souvenirs. On n'a pas les jambes de la même longueur exactement, on n'a pas les hanches placées parfaitement. Non! La perfection physique n'est pas de ce monde, mais le kiné digne de ce nom va encourager le patient à marcher le mieux possible quand même. On peut comparer l'encouragement du kiné à celui de Pierre pour les résidents temporaires. Et on peut d'autant plus le faire que la sainteté n'est pas un état auquel on accède à force de privation ou de sacrifice, c'est une marche au quotidien. Et pour parler de sa sainteté, je vous propose de suivre le texte biblique pour parler de cette marche, justement, dans la sainteté, son fondement, son climat, sa motivation, le fondement de l'appel à la sainteté. Effectivement, on pourrait se demander pourquoi cet appel à la sainteté. Est-ce que c'est seulement pour vivre une vie moralement meilleure ou parce que c'est bon pour le moral ? Ou c'est bon pour la santé, ou c'est bon pour la société. Non, il semble que pour Dieu, pour sa parole, le fondement de la sainteté n'est pas là. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par des passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance, au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints. Dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint. » Et ce qui ressort de cette parole, vous le voyez, c'est que La sainteté serait quelque chose d'assez naturel, d'assez logique pour des enfants qui sont en relation avec un père qui est saint. Tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Et quand Dieu, par l'intermédiaire de Pierre, nous appelle à la sainteté, il n'est pas complètement irréaliste ou surréaliste. Quelque part, la sainteté serait inscrite dans notre ADN de notre nouvelle nature en Christ. Et un bon synonyme pour la sainteté, ce serait la conformité. Être saint aujourd'hui, ce serait agir, vivre nos relations avec les autres, nous comporter dans ce monde en conformité avec ce que nous sommes en Christ, avec notre nouvelle identité en Christ, avec ce que nous confessons et croyons, conformément à notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et c'est peut-être une définition que l'on pourrait plus s'approprier. Sainteté, conformité. Et dans le psaume 93, verset 5, il est dit « La sainteté convient à ta maison ». Et il n'est pas question des ustensiles de cuisine ou des meubles ou de la tapisserie, mais des hommes et des femmes qui habitent cette maison. Et la sainteté leur convient. Elle est conforme à la nature de la maison dans laquelle ils habitent. Et donc, en tant que chrétien, je ne vais pas pouvoir dire, moi, en fait, je vais laisser la sainteté à d'autres. Aux spécialistes, genre Mère Teresa et autres. Moi, je n'ai pas la vocation à me faire canoniser. Non, nous sommes tous appelés à vivre en conformité avec ce que nous croyons et professons. Nous sommes tous appelés à la sainteté. On n'attend pas du ver de terre, alias le lombric, qu'il se mette à voler. Ce n'est pas dans sa nature. Sa nature, c'est d'avaler la terre et de la rejeter derrière lui. C'est comme ça qu'il avance dans la vie, le ver de terre. Par contre, on peut s'attendre à ce qu'un papillon vole. Parce qu'il a tout l'équipement pour, parce que c'est conforme à sa nature. Et on peut même pousser plus loin en disant que même lorsqu'il est encore une chenille, on peut s'attendre à ce qu'un jour cette chenille se métamorphose et se mette à voler comme un papillon parce que c'est inscrit dans sa nature, dans sa nouvelle nature. Par contre, ce serait tout à fait aberrant de voir un papillon refuser de voler et de continuer à ramper comme il le faisait avant, alors qu'il était chenille. De même, ce serait illogique, incohérent, comme le dit Pierre, de se laisser diriger par les passions qui nous gouvernaient autrefois au temps de notre ignorance de Dieu. Nous serions comme des papillons en train de ramper, qui oublient leur nouvelle nature et tout l'équipement qui va avec. Alors c'est toujours possible qu'un papillon rampe. Physiquement, c'est possible, je pense. Il peut le faire. Il n'a qu'à se souvenir du temps où il était chenille, mais ce serait tellement décalé, tellement incohérent, tellement peu adéquat avec cette nouvelle nature. Mais il semble que la tentation existe pour le papillon de revenir à la chenille. Il y a une sorte de pression de l'air du temps pour un retour en arrière à de vieilles habitudes. Et Pierre de Doux nous dit « Ne vous laissez pas diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. » Et dans l'original, en grec, la langue dans laquelle a été rédigé le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, il est dit « le verbe diriger, c'est schématiser. Ne vous laissez pas schématiser par les passions qui vous gouvernaient autrefois. Et ça m'a fait penser à ce texte de Romains 12, 2, où on a un peu les mêmes termes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas schématiser par le siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés. Tiens, encore le papillon. Par le renouvellement de l'intelligence. Pierre et Paul, Dieu dans sa parole nous disent la même chose, ne vous laissez pas mettre dans des schémas tout faits qui ne vous vont plus. Ne vous laissez pas schématiser par les schémas de ce monde. Le schéma de l'anxiété généralisée. Le schéma du soupçon. Le schéma de la méfiance. le schéma de l'individualisme forcené, le schéma de l'égoïsme, le schéma du moi d'abord, le schéma de mon plaisir, de ma sécurité d'abord. La sainteté, c'est de refuser de rentrer dans ces schémas qui ont fait leur temps. La sainteté, c'est d'exploser ces schématisations de l'ère du temps. L'ère du temps, à hier, qui sont dans l'ère du temps. Et je pense, j'utilise cette expression, au lieu de l'expression « le siècle présent » comme il est mis dans la Bible, parce que je me rappelle que dans la Bible aussi, le prince de ce monde, ou de l'ère de ce monde, le prince de l'ère de ce monde, c'est le diable, c'est l'adversaire. La sainteté, c'est refuser de rentrer dans ces schémas qui ont fait leur temps, c'est d'exploser, comme la chrysalide fait exploser le cocon pour devenir papillon. Et je trouvais ça intéressant de voir que si la sainteté, c'est la conformité avec ce que nous sommes en Christ, c'est l'anticonformité ou l'anticonformisme par rapport aux schématisations de l'ère du temps. Conformité et anticonformisme à la fois. Conformité à notre identité en Christ, anticonformisme avec les schématisations de l'ère du temps. Et j'aime cette image de libération du carcan, d'explosion du cocon quand on parle de sainteté, parce que on a l'habitude de parler de la sainteté de façon négative en termes d'abstinence, de renoncement. Le saint serait celui qui ne fait pas ceci ou qui ne fait pas cela, etc. Il y a une part de cela dans la sainteté. Mais elle se définit aussi et peut-être surtout de façon positive. Être saint, c'est voler comme un papillon. C'est voler au secours des plus fragiles. C'est voler au secours de ceux qui ont faim et soif de justice, c'est poser des actes concrets de bonté, c'est se battre pour les autres, c'est faire preuve de patience, de générosité, de douceur aussi dans la vie. Être saint, c'est pouvoir mordre dans la vie abondante que Dieu nous promet et nous donne. Être saint, c'est se réaliser en tant que chrétien, pour prendre une expression d'aujourd'hui. Vous serez saint, car je suis saint. Deuxièmement, parlons de ce climat. Le climat de cet appel. Qu'est-ce qui fait du bruit dans mon... C'est ma boîte de tic-tac. Le climat de la sainteté. Alors, je ne sais pas si le mot climat est bien choisi, mais c'est pour vous parler de... Et Yvonne en a déjà parlé, de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu fait partie du texte de Pierre. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Et on a du mal avec ce mot crainte parce qu'elle nous semble s'assimiler, boum, justement, avec le tonnerre, avec les trucs qui font peur. Et on ne s'est pas vu avec Yvonne, on s'est un peu parlé quand même, mais on n'a pas parlé de ce tonnerre, mais elle a choisi aussi cette image. Mais en même temps, quand Dieu se révèle à Élie, qui est en pleine dépression, il ne se révèle pas dans le tonnerre ou dans le feu, il se révèle dans un son subtil et doux. Parce qu'on a un peu de problème avec cette question de crainte, alors qu'on sait que Christ nous libère de toutes les peurs. On le chante assez souvent. Il nous libère de nos peurs. On rappelle souvent que Jésus dit à de nombreuses reprises à ses disciples de ne pas avoir peur. C'est peut-être l'impératif qu'il dit le plus souvent. Et nous aurions raison de penser qu'il n'y a pas de place pour la peur dans la vie avec Dieu. Et l'apôtre Jean le dit, et dit une parole magnifique, « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute crainte. » Car, il ajoute, « La crainte suppose la perspective d'un châtiment. » Et en Jésus, il n'y a pas de châtiment. Puisque c'est lui qui a pris le châtiment à notre place parce qu'il nous aime d'un amour véritable, il est allé jusqu'à la croix pour prendre sur lui la cause de nos châtiments, notre péché. Par sa mort et sa résurrection, Jésus met fin à toutes nos peurs, à la reine de nos peurs. D'abord, c'est la peur de la mort, et à toutes les peurs qui découlent de cette peur-là. Il y met fin. L'amour parfait en Jésus-Christ bannit la peur. Alors quand Pierre nous parle de la crainte de Dieu comme un climat à entretenir pour vivre une vie conforme à son appel ou à notre appel, on ne comprend pas où il y a un mouvement de recul. Moi, je veux même pas peur. Je ne veux pas craindre. Je ne veux pas ajouter une peur à toutes celles que je combats déjà. Mais vous l'avez bien compris, quand la parole de Dieu nous parle de passer notre séjour sur la terre dans la crainte de Dieu, elle ne parle pas de phobie, d'être des théophobos, des peureux de Dieu, ni de terreur, ni d'effroi. Elle parle d'un profond respect pour Dieu, parce qu'il est grand, nous l'avons chanté tout à l'heure, parce qu'il nous transcende, parce qu'il nous dépasse largement, parce qu'il est awesome. Tout à l'heure, quand Yvonne a parlé des choses qui l'impressionnaient, je pensais qu'elle allait parler de moi. J'étais un peu déçu. On en parlera tout à l'heure. Mais Dieu est un Dieu impressionnant. Awesome. Et Samuel Benetro, aussi prof de Nouveau Testament à la fois, qui était impressionnant, qui s'est marié avec une orthésienne, je crois. Pour définir la crainte de Dieu, nous parle dans son livre sur un Pierre, nous parle d'une prise de conscience du sérieux de l'existence chrétienne. Notre Dieu est un Dieu d'amour et de grâce, qui pardonne et qui bénit. Ses bénédictions se renouvellent chaque matin. C'est un père qui a compassion de ses enfants. C'est une mère qui rassemble ses poussins sous son aile. Mais cela ne fait pas de lui un Père Noël, ou un papa gâteau, ou un papa gâteux, ni un copain à qui on se tape sur l'épaule pour l'inviter à boire un verre. On est parfois léger par rapport à Dieu, d'une insoutenable légèreté de l'être, comme le disait Kundera. Et Pierre, à ses résidents temporaires, parle d'un Dieu comme un père, mais un père qui juge, vous l'avez en... qui juge de manière impartiale, soit, mais qui juge. Alors, objection, votre honneur. Celui qui croit au Fils ne passe pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, dit Jésus. Objection retenue. Nous sommes sauvés du jugement dernier, de la colère de Dieu, de la condamnation, mais nous aurons à rendre des comptes sur ce que nous avons fait lors de notre pèlerinage, sur ce que nous avons fait de ce que nous avons reçu. Vous vous souvenez de la parabole du talent ? Il y en a qui en reçoit 1, 5, 10, peu importe. L'important, c'est de faire fructifier. Il y en a un qui l'a enterré, qui n'a rien fait. Et Jésus, vous en souviendrez aussi, a une parole un petit peu jugementale sur ce... ce type-là. La gestion de ce que nous avons reçu, c'est du sérieux. Et nous avons du mal à réconcilier cette pensée avec l'évangile de la grâce. Mais cette dimension est bien présente dans la Bible. Et elle n'est pas là pour nous faire vivre dans l'effroi de toutes les occasions ratées de faire le bien, mais nous faire prendre conscience du sérieux de l'existence chrétienne, du sérieux de cet appel à la sainteté. Cette espérance vivante doit changer quelque chose dans notre vie. Alors, pour ne pas glisser dans une théologie du salut par les œuvres ou par les mérites, où on glisse très rapidement, il nous faut tout aussi rapidement passer au troisième point qui nous parle de la motivation ultime de la sainteté. La voilà, la motivation première, ultime, première et dernière de la sainteté. Nous lisons au verset 16 du 18. « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre qui vous ont été transmises
que vous ont transmises vos ancêtres. Et vous savez à quel prix ? Ce n'est pas par des biens qui dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Et nous entrons là dans la motivation principale, ou on va dire le moteur de cet appel à la sainteté. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne le galvaudez pas, nous dit Pierre. Et l'appel à la sainteté repose en fait sur la rédemption, le rachat. Littéralement, vous avez été racheté de la vaine manière de vivre héritée de vos pères ou de vos ancêtres. Alors le rachat ou la rédemption n'ont pas beaucoup de sens aujourd'hui. On rachète un prêt bancaire quand on a reçu un peu d'argent, mais on ne parle pas de rédemption du prêt bancaire quand même. Mais cela ne nous coûte pas grand-chose, enfin un petit peu quand même. Mais à l'époque, le rachat, la rédemption signifiait beaucoup. Il y avait 15 millions d'esclaves dans le monde connu à l'époque. Et il n'y avait que deux moyens pour eux de retrouver leur liberté. Soit ils économisaient pour pouvoir se racheter eux-mêmes, ce qui était extrêmement rare, parce que malgré tout, un esclave valait quelque chose. Soit, deuxième solution, un maître généreux ou un autre homme libre, philanthrope, leur achetait la liberté, les rachetait. Et tous les esclaves, tous ces 15 millions d'esclaves attendaient leur vie durant cet homme providentiel qui viendrait les racheter. On pourrait comparer à ces millions de personnes qui aujourd'hui attendent de gagner au loto. Mais Pierre nous rappelle que le Rédempteur est venu, que Jésus a lui-même dit qu'il venait non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour nous racheter. Pour beaucoup. Le prix du rachat, c'est sa vie, c'est la vie d'un homme exceptionnel qui a payé de son sang pour nous libérer de la futilité de la vie, de l'inutilité de notre vie, on pourrait même dire de la nullité de notre vie. Un prix, et le prix est incroyablement fort, il est dit le sang précieux. Verse son sang précieux. Et pour cela, il a paru dans ces derniers temps, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en notre faveur. Un rachat pour nous. Et quelle serait la réponse ? Notre réponse, faire des efforts pour mériter ce rachat ? Non, la réponse serait un énorme merci, un grand merci. Et parce que je suis dans la reconnaissance, je vais vivre une vie qui sera dans la droite ligne de ce cadeau que, je vais m'engager dans une vie de sainteté. La marche dans la sainteté comme un grand merci adressé à Dieu pour son rachat, sa rédemption, sa libération. Un merci dans toutes les langues, pour toutes les nations. Et notre éthique, c'est-à-dire notre comportement, n'est pas une éthique de la morale. C'est une éthique de ou de la moralisation, mais une éthique de la reconnaissance. Et c'est ça qui change tout. Vous avez vu le soldat, c'est comment le film, avec le soldat Ryan ? Sauver le soldat Ryan. C'est une histoire de rédemption. Et au début ou à la fin, je ne sais plus, mais on voit le soldat Ryan qui est plus âgé, qui a une soixantaine d'années ou 70 ans, je ne sais pas, mais qui visite le cimetière de Normandie où est enterré le chef de la section, qui est joué par... Oh, j'oublie tous les noms, mais vous savez qui. Hein. Et toute la section est enterrée, là aussi. Parce que toute la section ou l'escouade, je ne sais plus, la patrouille, est morte pour sauver ce soldat Ryan. Parce qu'il faisait partie d'une famille, d'une fratrie de quatre frères et il était le dernier survivant et que le gouvernement américain voulait quand même préserver ce quatrième. Ils sont tous morts pour lui. Et là, il est vieux, il est au cimetière et il pleure sur la tombe et il demande à sa femme, en pleurant, s'il a été a good man, s'il a été un homme bon. Ce qui lui importait au soldat Ryan, c'est d'avoir mené une vie conforme au sacrifice de tous ces gars qui sont morts pour lui préserver sa vie. Pas la culpabilité, mais la reconnaissance qui nous pousse à une vie meilleure. Toute démarche de sainteté, de sanctification ou d'amélioration de notre comportement, si elle n'est pas en rapport avec ce sacrifice de Christ pour notre rachat, se perd directement dans une vaine tentative à nous sauver nous-mêmes par nos propres mérites. Il nous faut en quelque sorte faire le détour en permanence par le Christ et son œuvre. Alors on pourrait le dire d'une autre manière à l'aide de la grammaire. Vous savez, dans la Bible, il y a toute une série de verbes à l'indicatif qui nous disent tout ce que Dieu a fait. Et de l'autre côté, il y a tous des verbes à l'impératif qui nous disent ce qu'il y a à faire dans notre vie. Il y a, dans les indicatifs, il nous a élus, il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se corrompt pas. Il nous a rachetés, il nous a libérés. Et puis dans la série d'impératifs, il nous est dit, tenez-vous prêts à agir, point d'exclamation, ne vous conformez pas. Il manque quelque chose. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez saints dans toute votre conduite. Gardez votre esprit en éveil. Mais jamais les impératifs ne sont donnés comme ça, dans le vide. Il y a toujours, à un moment donné, un lien qui se fait. Et dans notre chapitre, il est fait au verset 13. C'est pourquoi. Après les indicatifs, il y a ce mot charnière. C'est pourquoi. Qui mène aux impératifs. Tous les appels à la sainteté s'enracinent et se nourrissent de l'indicatif de ce que Dieu a fait dans notre vie et de ce qu'il va encore faire. Et c'est pour ça, chers amis, que le chrétien ne vivra pas sa vie dans la peur de Dieu et ne sera pas non plus un excité de la sainteté. Vous savez, celui qui brique son auréole tous les soirs pour que le lendemain, elle puisse scintiller aux yeux de tous. Non, le pèlerin sur cette terre sera un homme, une femme rachetée de Dieu, pardonnée de Dieu, qui, dans un grand merci, offrira à ce Père, ce Dieu transcendant, qui est venu vers lui en Jésus-Christ et qui l'a aimé le premier, il va lui offrir une vie sainte, c'est-à-dire une vie conforme à l'appel de Dieu et qui ne se conformera pas à l'air du temps. Il le fera par la grâce de Dieu et pour sa gloire. Amen. La marche de la sainteté se décide aussi. Et on peut aussi renouveler cette décision de marcher dans la sainteté. Vous savez, ce n'est pas si facile de parler de sainteté devant vous. C'est le mérite des séries de prédications sur un livre biblique. On parle de passages que, a priori, on n'aurait pas pris pour faire une prédication. Mais le Seigneur nous conduit à parler de sainteté aujourd'hui, de marche dans la sainteté. Une décision à prendre, à reprendre devant Dieu. Et je vous invite à vous lever pour chanter, si vous le pouvez et si nous le pouvons. J'ai décidé de marcher dans la sainteté. Couvert par son amour, mu par son pardon. De vivre dans ta sainteté.
J'ai décidé de marcher dans ta vérité, j'ai décidé de vivre dans ta sainteté, j'ai décidé de te soumettre mes pensées, j'ai décidé de faire ta volonté, Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier et mon rançon, si je tombe. Ta main me soutiendra, et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant, j'ai décidé de brûler d'un feu ardent, j'ai décidé d'avancer au son de ta voix, j'ai décidé de tout Mais jour après jour, tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là auprès de moi. Et je sais que tu seras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là auprès de moi. Et je sais que tu seras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là.
On va continuer avec un autre chant qui combine la grandeur, majesté de Dieu avec sa grâce.
Couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. En puissance de ta majesté.
Reprendre place. Je trouve ce chant résume tout ce qu'on a dit ce matin. D'être devant la sainteté de Dieu, racheté par lui à un grand prix, ça nous pousse à la reconnaissance, à vouloir pardonner à notre tour et être saint, être sanctifié. Alors, les quelques petits rendez-vous pour la semaine qui arrive. Il y a la prière itinérante qui est la petite rencontre écuménique qui se fait chaque fois dans une église différente. Donc cette semaine, ce sera à la rue Serviez, l'église réformée, théâtre, prépa culte. Ce sera chez Dirk et Corinna à Gélos. Il y a aussi un PPP chez eux. Ils sont bien pris cette semaine, pas en vacances. La semaine, dimanche prochain, notre culte habituel. Je veux souligner simplement ce petit temps de prière avant le culte, à un moment, si certains veulent venir un peu plus tôt pour se préparer au culte, aussi pour soutenir le culte par la prière, moi je trouve ça vraiment précieux pour ceux qui sont ici devant, de savoir qu'est ce soutien dans la prière, tous les dimanches matins. Là, on se sent vraiment porté et encouragé par ce temps. Je veux le souligner. Après, la semaine suivante, les autres rendez-vous redémarrent avec le parcours Alpha qui continue. On veut continuer aussi à prier pour chaque personne qui participe et pour aussi ceux qui donnent de leur temps pour être là, pour animer les discussions, pour faire le lien, pour se servir vraiment les autres. Puis vendredi 3 mars, la formation, cette fois-ci c'est sur le sujet de la communion fraternelle. On est heureux de voir cette formation continuer. Et puis, notre prochain culte en 3D se profile à l'horizon. Alors, il y a des petits cartons d'invitation sur la table et dans le couloir. On va parler encore une fois d'un sujet d'actualité. L'autre fois, on a parlé du fanatisme. Cette fois-ci, on va parler de la planète. Faut-il vraiment sauver la planète ? Qu'est-ce que ça dit pour nous, chrétiens ? L'occasion d'inviter nos amis pour qu'ils voient la pertinence de la foi dans la vie d'aujourd'hui. Je vous encourage à oser inviter. C'est toujours un petit défi pour tous. Plus loin, les jeunes nous préparent un culte. On se réjouit déjà de ça. La prière itinérante sera dans notre église le 21 mars. Et puis, il y aura nos assemblées générales où on est reconnaissant pour tous les membres de l'église qui donnent de leur temps, de leur énergie pour donner leurs suggestions, pour soutenir les projets, pour être là aux côtés du conseil, de son équipe et de toute l'assemblée. On a pu parler vendredi soir du parcours vitalité et on a pu commencer à voir un peu les résultats. Alors on est content de pouvoir réfléchir ensemble à comment faire avancer notre église, à pouvoir remplir son objectif. D'être une église qui va, d'aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, de leur parler, d'amener des gens à Christ, les faire grandir à sa suite, et tout ça en l'honneur de Dieu pour sa gloire. N'oublions pas les boîtes à la sortie. Je voudrais lire à ce sujet un verset d'un Corinthiens 8. Paul parle des chrétiens de Macédoine, qui eux-mêmes très éprouvés, très pauvres. Il dit, dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition par leur offrande. Et nous aussi, on veut d'abord se donner à Dieu, au Seigneur, et puis pour ensuite accomplir sa volonté en donnant, comme il nous a ce qu'il nous met sur le cœur de donner pour sa gloire. Il n'y a pas d'autre annonce ? Si, une petite annonce ? PPP Centre, mardi. Ok. Nous allons chanter un dernier chant. Je vous invite à vous lever pour chanter « Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ».
Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant.
Nous partons, Yvonne et moi, pour quelques jours de vacances, donc ne nous téléphonez plus. On va pas loin, on va à Luz quelques jours. Et puis dimanche prochain, nous ne serons pas là, mais nous ne serons plus en vacances. Nous serons à Orient, à Tarbes, pour le culte. Si d'ailleurs quelques-uns veulent venir avec nous, alors il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre, mais si vous êtes les bienvenus pour qu'on aille en équipe, pour encourager cette église d'Orient voisine que l'on aime beaucoup. Et voilà. Écoutons ensemble une dernière parole de la parole. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Bon dimanche. Bonsoir.